Eh bien, merci d'abord à la bibliothèque des Amis de l'Instruction de nous réunir en cette journée du 21 mai pour parler d'un thème qui nous est cher, donc les bibliothèques populaires. Alors la première table ronde que je vais animer concerne les bibliothèques populaires d'ici et d'ailleurs, avec Marie-Françoise Cachin, professeur émérite de littérature anglaise à l'Université Paris 7, Bruno Liesen, conservateur à la bibliothèque de l'Université libre de Bruxelles, et Annick Guinry, qui a dirigé longtemps la bibliothèque de Choisy-le-Roi et qui nous parlera tout à l'heure non pas de l'actuelle bibliothèque, mais d'un de ses ancêtres. Alors pour introduire le débat, je dirais d'abord qu'il est toujours délicat de définir ce qu'est le populaire. On peut le définir en disant c'est ce qui émane du peuple ou au contraire ce qui est destiné au peuple. Mais les définitions ne sont pas très rigoureuses, ce qui fait que lorsqu'on parle de livre populaire, on donne souvent des synonymes, livres de large circulation, livres de grande consommation. On hésite à qualifier véritablement ce qu'est le populaire. Alors pour une bibliothèque populaire, c'est évidemment encore plus compliqué. D'une certaine manière, on pourrait partir de l'idée que les bibliothèques au départ n'ont pas été conçues, ni pour le peuple, ni pour la majorité de la population. Si l'on se réfère à la mythique bibliothèque d'Alexandrie, on ne doit pas oublier qu'on a affaire à une société de type esclavagiste, ce qui veut dire que 97 ou 98% de la population est analphabète et n'a aucune vocation à aller dans les bibliothèques. Même si on peut trouver, bien entendu, et il y en avait, des esclaves alphabétisés, érudits et même enseignant les matières les plus compliquées, y compris la philosophie, confère Aristote et sa destinée. À Rome, d'une certaine manière, on peut trouver les premières bibliothèques populaires. Je m'explique. Ce ne sont pas des bibliothèques qui ressembleraient à celles-là et dans lesquelles on pourrait trouver des rouleaux plutôt que des codex. Mais je fais allusion au fait que lorsqu'un général ou un empereur revient à Rome pour célébrer son triomphe, il fait peindre sur des panneaux en bois, un peu à la manière des bandes dessinées d'aujourd'hui, le récit de sa victoire. D'une certaine manière, j'aurais envie de dire qu'on a affaire aux premières bibliothèques populaires. Alors évidemment, ce sont des bibliothèques en images, mais là, effectivement, la majorité de la population est convoquée pour, en quelque sorte, célébrer les victoires. En Orient, on pourrait peut-être trouver des stèles en pierre, ailleurs des carapaces de tortues ayant vocation à être comprises par la majorité de la population. Pour se rapprocher de nous, en reprenant une phrase qui est attribuée, je crois, à Saint Jérôme, on pourrait dire que le parvis des cathédrales est en quelque sorte l'illustration d'une sorte de bibliothèque populaire, puisque on considère à tort ou à raison, sans doute plus à tort qu'à raison, que le récit biblique qui est présenté était accessible à la population. Il ne faut pas exagérer. Allez vous installer pendant une demi-heure ou une heure devant le fronton de Notre-Dame, vous aurez pour la plupart beaucoup de difficultés, même si vous êtes très féru d'Ancien et Nouveau Testament, vous éprouverez quand même de grandes difficultés à comprendre la plupart des scènes. Alors, que cette légende soit vraie ou fausse, il y avait en tout cas, disons, une manière de s'adresser au plus grand nombre. Alors, pour parler de l'objet sur lequel nous allons effectivement intervenir, les bibliothèques populaires au sens plus moderne du terme, je pense qu'on pourrait considérer que les premières sociétés littéraires, elles ne sont pas populaires, mais elles sont relativement ouvertes par rapport aux sociétés aristocratiques. Elles s'adressent à une bourgeoisie large, c'est-à-dire une bourgeoisie des métiers, du commerce. Donc il y a une certaine descente vers le peuple. Ces sociétés littéraires qui, par abonnement, vont commencer à acheter des livres et à former ce qu'on appellera un peu plus tard les cercles de lecture en France, les circulating libraries en Angleterre, les Leih Bibliotheken en Allemagne, sont pour partie, mais pour partie seulement, l'un des ancêtres des bibliothèques populaires du XIXe siècle. Le deuxième ancêtre, ce sont les sociétés populaires qui apparaissent en grand nombre au moment de la Révolution française et qui vont se doter de journaux, de livres, pour essayer de partager cette culture. On va les retrouver entre 1789 et 1830, mais il y aura une nouvelle explosion autour de 1830 avec un certain nombre de sociétés, associations polytechniques, philotechniques, qui vont se doter de bibliothèques et qui vont constituer la deuxième matrice des bibliothèques populaires. La troisième, elle est plus connue, c'est celle qui va donner naissance directement à la bibliothèque des amis de l'instruction publique. Là, on est au tout début des années 1860. On dit parfois que le Second Empire est en train de se libéraliser. Je n'en crois pas un mot. Je n'en crois pas un mot. Parce que le Second Empire ne se libéralisera véritablement qu'en 1868 ou 69, au moment où il acceptera que le débat devienne public et qu'on puisse discuter de la politique. Mais disons qu'après 1860, après le traité de libre-échange avec la Grande-Bretagne, la dictature impériale se fait un peu plus relâchée, je préfère dire comme ça, et laisse effectivement, dans le domaine culturel, un certain nombre d'individus ou de groupes d'individus, d'associations, prendre un certain nombre de libertés et créer ces bibliothèques, dont la bibliothèque des Amis de l'Instruction. N'oublions pas, et ce sera presque mon dernier mot, qu'un an auparavant, en 1862, le ministre de l'Instruction publique, c'est l'ancêtre de l'Éducation nationale, dans une circulaire très importante, a créé un type de bibliothèque populaire très particulier. Ce sont les bibliothèques populaires qui vont être installées dans une armoire dans chacune des écoles du pays. On les appelle bibliothèques scolaires, mais comme elles ne sont pas destinées aux élèves, mais aux parents des élèves, on peut véritablement considérer qu'il y a là, au fond, la troisième matrice des bibliothèques populaires. Scolaires, populaires, ces armoires sont destinées quand même à la population. Et je ne résiste pas au plaisir de citer une des institutrices d'avant la Première Guerre mondiale que Jacques et Mona Ozouf avaient interviewée lors de leur grande enquête dans les années 1950. Cette institutrice de l'ouest de la France expliquait qu'effectivement, avec cette bibliothèque populaire, elle prêtait des livres aux adultes et qu'un jour, elle a vu venir la trouver une mère, mais une mère d'un paysan qui avait plus de 40 ans, mais qui était venue trouver l'institutrice en lui disant « Il faut arrêter parce que le lisage l'a toujours perdu ». Et je trouve cette réflexion extraordinaire. Cette vieille paysanne dont le fils a plus de 40 ans, mais qui n'a pas encore conquis véritablement le droit de lire sans demander la permission à sa mère, le lisage l'a toujours perdu. On n'est pas loin du chien de Lisard, la fameuse apostrophe du père Sorel au début du Rouge et le Noir, parce que son fils est en train de lire perché dans un arbre. On voit bien, avec ses tabous, combien de réticences, combien d'obstacles il a fallu contourner pour créer des bibliothèques populaires.